Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h, bonjour à tous. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce mardi matin. La campagne agricole 2024-2025 s'annonce prometteuse dans la région de Koutiala. Des insectes ravageurs avaient été détectés dans les cultures, mais ils ont vite été maîtrisés, ont indiqué les autorités agricoles. La première rencontre du consortium d'ONG s'est tenue ce lundi à Bamako. Objectif, dresser les bilans des 4 ans du projet qui intervient dans plusieurs domaines au Mali. Prévenir et réduire les conflits entre les investisseurs et les communautés locales impactées par l'exploitation du lithium. Le sujet était au centre d'une rencontre vendredi dernier à l'initiative de la coalition malienne. Publiez ce que vous payez. Voilà donc pour les titres, les détails à suivre. À la présentation, Lala Diarra Touré avec la complicité technique de Gagny Conté. La campagne agricole en cours évolue positivement à Koutiala malgré l'installation tardive des pluies. C'est ce qu'annoncent les autorités agricoles. Toutefois, ils signalent la présence des insectes ravageurs qui sont maîtrisés grâce au concours de l'Office de protection des végétaux. Reportage de David Koulibaly, notre correspondant à Koutiala avec la voix de Sali Sissoko.
Des paysans fondent beaucoup d'espoir sur la présente campagne si la pluie va au bout. Mais ils déplorent la qualité et la quantité d'engrais dont ils ont bénéficié cette année.
Pour le moment, ça se passe bien. Les cultures sont bien stables, les maïs ont bien réussi et s'il plaît à Dieu, le coton aussi réussira.
Si la pluie s'arrête à temps, nous aurons de quoi manger. Maintenant, le problème est lié à l'engrais.
À vrai dire, les engrais qu'on a eus n'étaient pas suffisants. C'est ce qui a causé les dégâts. Les engrais de l'année dernière étaient plus puissants et mieux que ceux de cette année.
Du côté des autorités en charge de la gestion de l'agriculture, les objectifs d'Amblavure conseillés dans le plan de campagne sont au-dessus des prévisions. Cependant, elle regrette l'apparition des insectes destructeurs dans tous les arrondissements de Koutiala. Mpiye Traoré, chef secteur agriculture Koutiala.
Donc, à la date d'aujourd'hui, en tout cas, le cumul pluviométrique enregistré cette année est de 689 mm en 32 jours contre 564 mm en 38 jours l'année dernière. Maintenant, nous avons reçu cette année dans le cadre du projet PERESA 1275 tonnes d'engrais NPK et de DAP. Sur le plan phytosanitaire, la situation est calme malgré la présence en tout cas des chenilles légionnaires.
Pour les perspectives, le chef du secteur agricole conseille aux producteurs de respecter les dosages en termes d'engrais et de pesticides.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Le Mali a célébré ce dimanche 22 septembre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. Au-delà de l'aspect festif, quel bilan peut-on réellement dresser de ces années écoulées, selon des analystes? Ce long parcours a été surtout marqué par des hauts et des bas et que les nombreux défis actuels exigent du pays des réponses promptes et ambitieuses. Le reportage est signé Issa Omar Togoula.
64 ans après l'accession du Mali à l'indépendance, le bilan demeure mitigé selon de nombreux analystes. Pour le professeur Omar Toumali, enseignant-chercheur, le pays a pu réaliser quelques actions concrètes, sans oublier les difficultés qu'il y a eu à rencontrer également.
Dans les années 1960 jusqu'à 68, de nombreuses entreprises nationales ont vu le jour. Et le pays, aujourd'hui, connaît des difficultés majeures. Le volet social a connu une détérioration. La corruption est un facteur très important de cette baisse.
Le politologue Balandjagité ne dira pas le contraire. Pour lui, le pays doit agir sur les domaines prioritaires avec intelligence en vue de relever ses nombreux défis.
Tant qu'on n'arrive pas à trouver une certaine stabilité politique et institutionnelle, et tant qu'on n'arrive pas à mettre à dresser notre système éducatif pour en faire vraiment le levier de notre développement socio-économique, on aura encore du chemin à faire. Il faut aussi que les autorités travaillent de sorte que nous puissions vraiment attirer des investissements étrangers dans notre pays.
En outre, dans son discours à la Nation, le président de la transition, Assimi Goïta, a reconnu que le pays fait face à des défis majeurs, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Mais il a rassuré la population que les actions sont en cours pour répondre aux besoins des citoyens.
Merci Issa Omar Togola. Je vous l'annonçais au sommaire. La première rencontre du consortium d'ONG s'est tenue ce lundi à Bamako. L'objectif était de faire le bilan des 4 ans du projet Fondation, un projet qui intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé de la reproduction des adolescents et les plaidoyers dans plusieurs localités du Mali. Selon ses responsables, de nombreuses réalisations ont été faites. Il est financé par Affaires Mondiales Canada à plus de 26,542 millions de francs CFA. Halima Yattara nous en dit plus.
Loubra Albatlovny est la conseillère technique de Save Children Canada. Elle estime que des avancées significatives ont été enregistrées. Selon elle, l'ère est à la réflexion aux différents défis et perspectives.
Nous collaborons étroitement avec les communautés, les adolescents, les centres de santé, les écoles et les groupes de défense des droits de femmes et des filles. Cette démarche intégrative est la clé de notre succès et est particulièrement pertinente maintenant que nous entamons la 4e année du projet.
Les responsables du projet Fondation au Mali se félicite des réalisations faites, notamment sur le plan de l'éducation et la santé. Ousmane Maïga, senior programme manager au compte de Save Children sur le projet Fondation au Mali.
Nous avons déjà jusqu'à ce niveau pu valider au niveau de la DNP, la Direction nationale de pédagogie du ministère de l'éducation, des outils pédagogiques qui peuvent aider les enseignants à mieux dispenser les cours auprès des adolescents. Ça, c'est déjà une grande avancée. Au total, on est à presque 400 agents de santé que nous avons formés dans nos zones d'intervention.
Notons que ce projet est également présent au Niger et en Sierra Leone. Sa mise en œuvre se poursuivra dans la région de Sikasso, ont indiqué les responsables.
D'une rencontre à une autre, la coalition malienne publiée Ce que vous payez a tenu vendredi dernier une conférence de presse à Bamako. Objectif, contribuer à la prévention et à la réduction des conflits entre les investisseurs et les communautés locales impactées par l'exploitation du lithium. Cette conférence s'inscrivait dans le cadre également de la semaine d'information et de sensibilisation des sociétés minières à la migration sur le code de 2023. Tchemoko Suleiman Sangaré est le secrétaire général de la dite coalition. Il est au micro de notre reporter Moussa.
Ce matin, nous avons lancé la campagne de sensibilisation et d'information pour qu'il y ait une migration vers le code 2023. Le Mali chemine aujourd'hui avec différents codes. De 63 jusqu'en 2019, il y a plus de 5 à 6 codes qui cohabitent. Et nous pensons qu'à ce stade, le code 2023 étant l'un des codes promoteurs pour notre État, avec une loi spécifique sur le contenu local, est le meilleur code pour nous, acteurs de la société civile, et nous exhortons nos autorités à négocier pour qu'on ait un seul code 2023 mis en marche aujourd'hui au Mali. Voilà un peu ce qu'on va faire pendant cette semaine, cette campagne de discussion, de partage d'informations.
Autre actualité, le prix de la tonne de ciment connaît une légère baisse à Koulikoro depuis le début de ce mois de septembre. Ainsi, la tonne est vendue à 110 000 francs CFA en ce moment, comparativement au mois précédent où il était cédé à 115 000 francs CFA. Selon les vendeurs, cette baisse s'explique par le ravitaillement correct du marché en ce moment. Ils affirment aussi que la demande est plus élevée en cette période pluvieuse en raison de la croissance de réalisation des chantiers de construction.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Il est 8h passé des 8 minutes. Dans la rubrique Zoom sur, Lale Tangara nous parle des pleurs des nourrissons dans la nuit et les comportements des heureux parents face à cette situation.
Dans la famille, dès qu'on annonce la naissance d'un enfant, tous les proches se mobilisent pour rendre ce moment inoubliable. Ne dit-on pas que la venue d'un enfant dans un foyer est un bonheur? Eh oui, c'est un bonheur accompli, mais qui demande un certain nombre de sacrifices. La nouvelle maman, à peine rentrée à la maison après l'accouchement, fait désormais face à de nouvelles responsabilités. La routine à adopter et le manque de sommeil. Les vétérans en savent quelque chose, mais pour les nouveaux parents, plusieurs surprises se cachent derrière cette journée. journée de joie. Dès que la nuit tombe, bonsoir, les pleurs et toute une occupation entière dédiée au nouveau-né. On dirait que le bébé attend que ses parents ferment les yeux et commence avec ses pleurs. La maman passe à des nuits blanches et le matin, elle se réveille avec les yeux enflés, tout rouge. Les papas, certains alternent avec les mamans, ils font 2 heures à s'occuper de l'enfant. Ça, c'est une chance. Par contre, d'autres, pour que leur sommeil ne s'interrompe pas à cause des pleurs du bébé, demandent à la maman d'aller au salon ou ils quittent simplement la chambre. Et pourtant, après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on l'habitude de dire.
Soyons donc patients avec les nouveau-nés. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers les numéros suivants 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous pouvez réécouter gratuitement ce journal et les magazines qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Très bonne journée de mardi à tous. Dans ce magazine Gouvernance et Citoyenneté, projecteur sur le procureur de la République, le juge d'instruction. Selon l'organisation judiciaire, il y a des types de magistrats, notamment les magistrats du parquet et ceux du siège. Quel est le rôle de ces deux magistrats dans la procédure judiciaire? Qui est procureur? Qui est juge d'instruction? Et comment les saisir? Éléments de réponse dans ce magazine réalisé par Lali Tangara en collaboration avec nos correspondants en région. C'est une rediffusion.
La fonction du procureur et du juge est de trancher la justice. Au-delà de cette définition, des citoyens rencontrés à Kadjolo, Mopti et Ségou ne savent pas plus sur le rôle de ces deux magistrats.
À mon avis, ils ont tous un pouvoir. C'est juste que le procureur poursuit les malfaiteurs et que le juge les juge.
Pour moi, le procureur et le juge font tous des jugements. Mais comme nous l'entendons, il se peut que de la même manière que leur nom diffère, leur fonction aussi diffère.
Moi, en tout cas, je ne connais pas la différence entre le travail du juge et celui du procureur.
La procédure pénale est l'ensemble de normes relatives à l'organisation des poursuites en matière pénale. C'est ainsi que Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur de la commune 1 de Bamako, nous explique qui est procureur et quel est son rôle.
Le procureur, c'est le représentant de l'État. Le procureur, c'est lui qui poursuit en cas de violation de la loi qui est conçue dans le code pénal. Et il contrôle l'application de cette loi. Il a le droit de saisir le tribunal. On peut dire que c'est lui aussi la porte d'entrée de la justice pénale. Quand quelqu'un est lésé, mais quelqu'un qui viole la loi, on saisit directement le procureur.
Alors, qui est le juge d'instruction et quelle est sa fonction dans le tribunal? Professeur Mamadou Guissé, enseignant-chercheur à la faculté de droit privé de Bamako, explique que ce magistrat intervient pour approfondir les recherches de preuves afin d'accomplir les travaux du procureur après le dépôt d'une plainte.
À ce moment, le juge d'instruction va jouer le rôle qu'on va appeler l'information judiciaire, l'instruction préparatoire. À ce stade, le juge recherche des éléments de preuve à charge et à décharge permettant effectivement d'asseoir les éléments de preuve permettant soit de disculper ou d'inculper la personne poursuivie.
Comment ces magistrats sont-ils nommés à ces fonctions? Mohamed Maouloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, nous explique la procédure.
Cette attribution relève du Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République, chef de l'État. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit, je veux dire, et de membres élus. C'est ce collège de membres qui réfléchit au profil adapté pour confier telle fonction à tel magistrat.
Y a-t-il une différence entre le procureur de la République et les juges d'instruction? Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste collaborateur, répond que les deux travaillent ensemble pour la manifestation de la vérité.
Les deux relèvent d'une juridiction. Ils sont obligés de travailler ensemble pour la manifestation de la vérité. Maintenant, indépendamment, le procureur, lui, il a l'opportunité de poursuite. Lorsqu'il constate une information et une infraction, il reçoit les plaintes, il défend la société en soi. Contrairement au juge d'instruction, a un rôle tout autre vers des investigations, de recueillir le maximum d'informations.
On entend souvent dans les jargons « juge à compétences étendues ». Contrairement aux deux magistrats, ce juge est indépendant, indique Mohamed Maouloud Najim. Il est le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau.
Le juge de paix à compétences étendues est un magistrat auquel on confie une juridiction où il est seul à officier. C'est-à-dire il poursuit, il instruit et il juge.
À retenir qu'en cas de violation du droit, les usagers peuvent directement saisir le procureur de la République, car il peut engager des poursuites contre toute personne.